Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast France Télévisions et surtout un épisode inédit aujourd'hui. Le podcast des maternelles est un sujet phare, aujourd'hui phare et complexe. Les parents d'aujourd'hui se mettent-ils trop la pression? Entre les injonctions diverses et variées, manger bio, le fait maison, les couches lavables, l'éducation bienveillante, ne jamais crier, faire des activités ensemble, éveiller à la culture, être présent, mais pas trop. Sans parler de la pression mise par les réseaux sociaux, ces parents parfaits, insupportables, qui nous renvoient aux yeux notre médiocrité et les jugements des autres, les proches, la famille. De mon temps, on faisait mieux, bien sûr, bien sûr. Alors comment s'apaiser en tant que parent et se juger avec plus de bienveillance? Et surtout, pourquoi on doit le faire? Voilà un bon sujet, je trouve. Il me fallait au moins 3 invités, 5 étoiles pour nous aider dans cette quête. Sophie Braun, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être là. Vous êtes psychologue, psychanalyste, on vous voit régulièrement dans l'émission La Maison des Maternelles et auteur notamment du livre La Tentation du Repli dont on va parler. Docteur Flo, bonjour docteur.
Et bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, on va dire dans la région d'Aix-en-Provence.
Oui.
Docteur Flo, c'est un pseudo que vous utilisez sur les réseaux sociaux où vous êtes très suivi, mais donc vous êtes un vrai médecin qui consulte des vrais patients.
Tout à fait, un vrai de vrai.
Dans la vraie vie.
Je vous promets.
Vous allez notamment nous dire si vous trouvez les parents qui viennent vous voir un peu trop tendus.
Exactement.
Pour citer Benoît Poulvord. Et puis Marie-Pierre Arnaud, qu'on ne présente plus. Bonjour Marie.
Bonjour Benjamin.
Chroniqueuse de la Maison des Maternelles, professeure de formation, maman de 4 enfants et stressée des fois.
Pas du tout.
Tant mieux. Merci d'être là à tous les 3. Donc avant de vous entendre, je vous propose d'écouter ce témoignage de Camille à propos de la pression que se mettent les parents d'aujourd'hui. On écoute Camille.
Bonjour la Maison des Maternelles. Je m'appelle Camille et je suis maman de Juliette, 5 ans, et Victor, 1 an. Me mettre la pression, moi? Mais pas du tout. Je veux juste que ma maison soit impeccable, que mes enfants réussissent leur scolarité, qu'ils mangent bio et équilibré, qu'ils aient des activités extrascolaires, que mon mari ait un bon repas quand il rentre du travail, que mon activité professionnelle pète des flammes, etc., etc. J'ai réalisé il y a quelques mois que j'étais intransigeante avec moi-même, que je plaçais la barre trop haut. À la naissance de mon premier enfant, je me suis lancée dans la course folle de la perfection. Et avec le recul, je réalise aujourd'hui que cette course dans laquelle bon nombre de parents se lancent est perdue d'avance. Tout ne sera jamais parfait, ni 100% sous contrôle. Alors, je me répète tous les jours une phrase que ma maman m'a dite. Tes enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite et épuisée. J'apprends alors à relâcher un peu la pression afin d'être plus présente pour mes enfants et d'aborder avec un peu plus de légèreté mon quotidien. Voilà, je vous souhaite une belle journée.
Merci à Camille pour ce témoignage. Sophie Braun, Camille est-elle un cas isolé?
Loin de là. Je crois que tous les parents aujourd'hui se mettent une pression immense, énorme et terrible. Alors, déjà, on va essayer de faire une émission, on va essayer de faire un podcast dans lequel on ne va pas rajouter des injonctions, parce que sinon,
oui,
c'est raté.
Il ne faudrait pas que ça les stresse plus.
Voilà, donc il va falloir qu'on trouve justement cet équilibre entre essayer de dire un tout petit peu des choses pour que les gens se mettent moins la pression, sans se dire qu'il ne faut pas se mettre de pression. Être parent, c'est forcément se mettre une pression. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on se met comme pression? Est-ce qu'on veut être parfait et est-ce qu'on veut que nos enfants soient parfaits? Des enfants parfaits d'une mère ou d'un père parfait, évidemment, ça ne marche pas. Et ça, ça met une pression terrible. Donc, il va falloir d'abord travailler sur soi-même, je crois, pour essayer de ne pas vouloir être effectivement une mère parfaite. Et à partir de là, peut-être, on acceptera que nos enfants ne soient pas parfaits. Mais d'abord, c'est un travail, je crois, vraiment sur soi, pour se dire, je baisse la barre.
Ouais.
Si on veut sauter à 6 mètres tout de suite, c'est évident qu'on va rater. Donc, en plus, on rentre dans un cycle infernal parce que on rate l'obstacle, on s'en veut, on se trouve pas très bon. Comme on n'est pas bon, on va se mettre encore un objectif plus haut. Et là, on rentre dans une boucle terrible.
Mmh.
Donc, il faut essayer de sortir de cette boucle et de baisser, effectivement, le niveau de la barre. Parce que si on met la barre à 50 cm, on va réussir à sauter, on va être vachement content.
Donc en fait, avant de dire que ça vient de la famille, de l'entourage, des réseaux sociaux, ça vient de soi-même. Il faut commencer par faire sa propre auto-analyse, que Camille fait bien d'ailleurs en disant « j'ai décidé de me poser un petit peu ».
Alors oui, en même temps, c'est toute la société qui nous amène là. Et l'injonction de perfection, elle est terrible et elle est aussi une conséquence très paradoxale du féminisme. Hein ? Aujourd'hui, les femmes, non seulement il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles restent jeunes, il faut qu'elles soient jolies, il faut qu'elles soient en plus des bonnes mères. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé des tâches aux femmes, on en a ajouté. Voilà. Et ça, il faut aussi que chaque femme réfléchisse. Moi, je dis très souvent à des patientes, mais si vous bossez, vous ne pouvez pas en plus vous occuper de votre maison. Il faut déléguer des choses. Et là, on est dans une injonction de perfection pour les femmes qui est absolument redoutable.
Est-ce qu'elle n'est pas générationnelle aussi, cette injonction, dans la mesure où, moi, les réflexions que je peux avoir sur le fait d'avoir une femme de ménage parce que je travaille, elles me viennent de la génération précédente. Les femmes de ma génération trouvent ça absolument normal. Alors, pas ma mère, mais en tout cas, les femmes de la génération précédente se disent « Bah, enfin !»
Elles tu peux pas tout faire. Pas,
voilà. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train quand même d'aller vers un mieux parce qu'on vit toute la même chose et que finalement, on tolère mieux de se faire aider et que les autres se fassent aider?
J'espère. J'espère que les femmes commencent à comprendre qu'effectivement, la question n'est pas la perfection, n'est pas d'arriver à tout faire, mais d'arriver à déléguer et effectivement là, à lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter de déléguer. Et c'est très difficile d'accepter de déléguer, que ce soit pour les hommes dans les entreprises, que ce soit pour les femmes dans les entreprises aussi. D'ailleurs, c'est très difficile
ou dans les couples.
On a l'impression qu'on va faire mieux que les autres.
Ou dans les couples, on va en parler, bien sûr. Docteur Flo, est-ce que c'est en devenant parent que cette pression explose? Est-ce que vous, les patients que vous avez avant de devenir parent après, vous sentez un truc qui a changé?
Alors, c'est sûr que je pense qu'il y a quand même des choses qui changent quand on devient parent, parce que je pense qu'initialement, c'est plus facile de lâcher prise quand on est la seule conséquence de se lâcher prise. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, aujourd'hui, ma maison, elle n'est pas rangée, elle est en bazar, bah, tant pis, je vais vivre dans une maison en bazar. Quand on devient parent, j'ai l'impression qu'on s'impose le « je vais vivre dans une maison en bazar, mais je vais le faire subir aussi à mes enfants, subir entre guillemets ». Et je ne sais pas, il y a une espèce de transformation dans l'objectif, on n'est plus que pour nous, on n'est plus que, mais ça c'est quelque chose qui est universel, je pense, quand on devient parent, on arrête de réfléchir simplement pour soi, et on réfléchit pour soi et pour l'autre. Et la pression commence quand on commence à se dire que nos enfants, il faut qu'ils soient... dans un meilleur environnement, qui mange mieux que nous, qui soit dans un meilleur environnement que nous, qui bénéficie de ce que nous on n'a pas eu. Je pense que ça, déjà ça peut commencer à ce niveau-là, de se dire ça je l'ai pas eu, je veux que mon enfant il ait. Et déjà bim, on commence à se mettre une barre avant même que l'enfant arrive. Très souvent, on s'en rend compte dès même le projet, le nombre de changements d'habitudes de vie que d'habitude on encourage en consultation, mais que je vois et qui sont concomitants à « on a un projet bébé, donc je veux, je sais pas, perdre du poids, arrêter de fumer », toutes ces choses qu'on encourage habituellement.
En temps normal, mais si c'est trop radical...
C'est-à-dire que c'est la plus belle des motivations, je pense, la parentalité, pour avoir ce genre de changement-là. Et paradoxalement, quand on la pousse un peu trop à l'extrême, comme ça peut être le cas dans les sociétés, comme on vient de le dire, ça peut nous amener à justement se mettre cette barre un petit peu plus haute. Quoi.
Sophie Braun a beaucoup parlé des mamans qui se mettent la pression. Vous voyez aussi des papas ça reste quand même un sujet surtout qui concerne les femmes?
Alors, ça, c'est de plus en plus... ça évolue. Alors, ça évolue, dit-il du haut de son immense expérience de 30 ans d'exercice. Pas du tout. Je suis jeune installé. Mais je me rends compte quand même que j'ai une proportion de papas dans ma patientèle de tous les jours qui est de plus en plus soumis à ces mêmes injonctions, à ces mêmes envies de meilleur, de mieux, de perfection, etc. Alors, il y a un peu de tout. C'est difficile de
ça
dire
évolue,
aujourd'hui.
Mais
ça évolue
doucement.
Le sentiment que j'ai sur le pourcentage de pères qui s'impliquent vraiment énormément, voire qui se surimpliquent, et de pères qui s'impliquent pas du tout. Je constate vraiment les deux dans ma patientèle, et je me dis que ça peut peut-être refléter une transition. Le fait que les pères de nos jours prennent de plus en plus cette place de père de famille et s'impliquent de plus en plus, et du coup dans l'implication vient aussi le surinvestissement aussi pour certains papas, et moi je le vois vraiment en consultation. Effectivement.
Alors Marie, vous avez donc 4 enfants. Est-ce que vous m'avez déjà raconté 10 fois, c'est que comme vous êtes à Paris 2 ou 3 jours par semaine, en gros, souvent vous vous dites, mais et comment vous faites avec les enfants?
Je ne poserai jamais la question à Marie.
Et si c'était lui qui bossait, qui serait ailleurs,
j'en trouverais ça normal. Ouais. Et je voudrais revenir juste sur la perfection et l'injonction à la perfection qu'on subit. En fait, ce qui est très ambivalent, c'est que nos enfants nous empêchent d'être parfaits, alors même qu'on voudrait être parfait pour eux. Et j'entends en cela que ma maison en bordel, c'est de la faute de mes enfants. En fait, si je vivais toute seule, ma maison ne serait pas en bordel. Et en même temps, j'ai envie qu'elle soit nickel pour qu'ils puissent évoluer dans un milieu hyper propre. La nourriture super bonne, je la fais pour eux. Si j'étais toute seule, j'irais peut-être me faire un petit truc un peu crado. Et en même temps, parce qu'ils sont là, j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas le temps d'aller acheter des courses, j'ai moins de blé pour aller acheter du bio. Et c'est ça qui est hyper dur dans la parentalité, c'est qu'en fait, elle est source de motivation de notre perfection. Et en même temps, c'est également ça qui nous empêche d'accéder à la perfection. Et c'est vraiment ce que je trouve difficile dans le fait d'être parent, c'est qu'à la fois, on est vraiment tiraillé entre ces deux choses. Quoi.
Tant mieux.
C'est ce qui fait grandir.
C'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous fait bouger. L'ambivalence, c'est ça qui est essentiel. Pour le dire tout de suite, Winnicott, qui était un très grand pédiatre psychanalyste, disait « Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin... » Alors, il disait une mère, mais c'est un environnement suffisamment bon. Je pense qu'il faut écrire ça sur la porte de sa chambre, de son réfrigérateur, partout. Il faut des parents suffisamment bons. Parce que les enfants se construisent dans les failles des parents. Ils se construisent pas dans les... Ils se construisent avec les forces, mais aussi avec les failles. Hein. Mes enfants ont eu un sens de l'orientation extraordinaire très tôt, parce que moi, je l'ai pas. Et ils me disaient, mais non, mais là, c'est à gauche, maman. Là, c'est à droite. Voilà. Et ils n'auraient pas développé ce sens de l'orientation si moi, je l'avais eu. C'est un tout petit exemple, mais ça marche comme ça.
Oui, la richesse des gens se cache dans leurs défauts.
Acceptons nos failles, parce que c'est là que les enfants vont se développer. Après, vous dites la perfection. Mais qu'est-ce que c'est la perfection? Ouais. De toute façon, ça n'existe pas. Mais c'est un but impossible.
En fait, on pourrait dire le fantasme qu'on avait de nous-mêmes parents. En fait, c'est, il faut faire le deuil du père ou de la mère qu'on s'imaginait être, c'est ça?
Tout à fait. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez, en fait, on veut donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu.
Bien sûr.
Ou ce qu'on a eu. On voudrait, effectivement, leur donner une éducation absolument, entre guillemets, parfaite. Mais la perfection, c'est une espèce de course vers un objectif qu'on ne connaît pas. Et qui, de toute façon, recule. C'est comme l'horizon, hein. Ça recule au fur et à mesure qu'on essaye de l'approcher. Donc, il faut carrément enlever ce mot-là de notre...
La perfection. J'aurais même envie d'ajouter l'enlever ou alors carrément se le mettre. Mais moi, je pense que ça serait pas chouette, en fait, la perfection. Je pense que si on atteignait cet objectif de perfection qu'on se fixe, on trouverait ça chiant, pardon pour le terme, mais
moi je
trouve ça hyper épanouissant en fait de réussir à trouver justement son équilibre et son bien-être au contraire dans nos forces et dans nos défauts, dans nos faiblesses, parce que justement en fait on peut l'appliquer à plein d'autres choses, mais un mec trop parfait ou une nana trop parfaite, en fait au bout d'un moment finirait
par
se
lasser. Un peu chiant, hein.
un cadeau trop parfait, ouais. Voilà, c'est ça.
Un
cadeau trop parfait, on s'ennuierait avec. Enfin, c'est vraiment, j'aime vraiment cette idée de déconstruire complètement ce mot de perfection qu'on place sur un piédestal hyper haut, et en fait on serait tout seul tout en haut, ça serait chiant, vraiment.
Oui, puis la perfection, c'est aussi l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Tu parlais du fait que je suis absente 2 jours ou 3 jours par semaine, et je me mets toujours une pression pas possible pour que les cours soient faits, pour que mes enfants aient à manger, parce que je me dis surtout que les gens se disent pas « bon bah elle s'est barrée, et en fait... » C'est juste une fuite.
Ouais.
Et probablement que tout le monde s'en fout.
Alors, mais on est au centre du truc. Alors,
si on veut reprendre, déconstruire cette image de perfection, je crois que derrière l'image de la perfection, il y a l'image du robot. En fait, ceux qui seraient parfaits, ce seraient des robots. Ils feraient tout bien, ils feraient le ménage, la maison serait propre, le machin, etc. Et en fait, il faut qu'on déconstruise à l'intérieur de nous cette représentation. Les robots sont parfaits, seront parfaits. Nous, les humains, nous sommes imparfaits. On se le dit depuis les Grecs. Hein. Il y a les humains, les héros et les dieux. On n'est pas des dieux, on n'est pas des héros, on est des humains. Mmh. Et ce qui nous caractérise, c'est l'imperfection. Donc, vraiment, acceptons ça, mais sans nous mettre de pression. Il ne faut pas qu'on soit non plus imparfait, mais
oui,
quand même.
Mais la perfection empêcherait l'affection, les émotions, ce qui fait le sel de la vie.
Exactement.
On va se le dire.
Et on adore les robots. Hein. Moi, je veux être imparfait avec une maison pleine de robots. Ça me botte. Hein.
Voilà. Ça m'empêche. Oui, bien évidemment. Mais des robots pour faire le ménage.
L'aspirateur.
Et nous, pour les émotions, l'affection, etc., etc.
Vous en avez un, de robot
aspirateur? J'ai un petit robot.
Ça marche bien?
Je veux dire, je n'ai pas vraiment retrouvé le chargeur. Ah,
on est dans l'imperfection, là. Là, on aime. Alors, elle vient d'où, cette pression? On va en parler tout de suite. Alors, qui sont les premiers responsables de cette pression à la perfection que l'on doit fuir comme la peste la perfection? Je crois qu'il y en a une qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de parents, c'est Florence Foresti, et en particulier son spectacle Madame.
T'en connais des mamans calmes? Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elles crient jamais, elles courent jamais. Putain, mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir. J'ai construit ma vie là-dessus. Eh ben non, jamais. Mais j'ai compris pourquoi elle ne courait pas devant l'école, la maman calme, pourquoi elle ne court pas. Parce qu'elle n'est pas en retard. Elle est même visiblement bien, bien en avance, parce que tu remarqueras que la maman calme, elle a toujours eu le temps de se préparer. Tu sais, elle est toujours impeccablement habillée, elle est coiffée, maquillée, lavée. Putain, mais on fait comment? On se couche pas? On se lève à 5h30? C'est quoi le projet exactement là?
Merci à Florence Foresti et son spectacle Madame Marie. Père Arnaud, vous avez dit, j'ai peur que les gens se disent qu'elle part, en parlant de vous, qu'elle part bosser sans laisser. C'est ça qui vous fait peur? C'est plus que les gens, le regard des autres compte encore énormément?
Ouais, et puis mes enfants qui se disent en fait, elle se barre, elle fuit, alors que si j'ai laissé tout nickel, j'ai fait mon job, quoi. Mais forcément, c'est une pression, mais qui vient aussi de la façon dont on s'est construit enfant, dans sa scolarité, avec ses propres parents. C'est l'image qu'on voulait renvoyer à à nos enfants, à nos parents, voilà le lapsus, et qu'on a envie de renvoyer à nos enfants, alors qu'ils sont absolument pas dupes et ils s'en fichent complètement en plus.
Et d'ailleurs, souvent les voisins s'en fichent, nous jugent beaucoup moins qu'on ne le pense.
Ah bah oui.
Les fameux voisins de Florence Foresti. Alors, je vous présente Marius Doy. Bonjour Marius.
Bonjour.
Marius, qui est l'un des éléments centraux de la préparation de l'émission La Maison des Maternelles. Et alors, je dois dire, quand on a fait ce petit appel à témoignage pour parler de cette émission, les parents d'aujourd'hui ont-ils trop de pression? On a été inondés sous les messages. Marius, t'en as lu plein. Résume-nous un petit peu ce qui nous est envoyé par nos auditeurs.
Alors, beaucoup de questions de maman. Hein, parce que les mamans se mettent une pression, j'ai l'impression, quand même plus importante que les papas. Et une première question de Marie. Mais on veut que nos enfants soient beaux, polis, ne bougent pas trop, ne parlent pas trop non plus. Est-ce qu'on ne mettrait pas trop de pression à nos enfants? Car nous, parents, on veut être parfaits au final. Ouais. Donc c'est ce qu'on disait au tout début du podcast au final. Alors bien sûr que l'on se met la pression, mais la société n'a-t-elle pas également son rôle à jouer? Ça, c'est une question de Charlotte. Ensuite, une autre question, là c'est spécialement pour les mamans. Au début, on se promet de ne pas se mettre la pression, mais c'est mission impossible. En tant que parent, on a encore en 2022, on a encore cette envie d'être la maman parfaite et que nos enfants méritent de bons parents.
C'est marrant, tout le monde parle le mot parfait. Hein.
Ouais.
Ça revient à tous les messages. Hein.
Mais
toujours
au final...
le parent parfait de quelqu'un. Ou... Ouais. Ouais, mais c'est vrai.
Ah, on a bien fait de l'attaquer ce mot-là.
J'aurais dû l'intituler comme ça, ce podcast. Arrêtons de vouloir être parfait. Ouais.
Et au final, à la fin de cette question, Manon nous dit mais être un bon parent, n'est-ce pas simplement être aimant?
C'est ce que Winnicott disait à sa manière. Voilà.
Suffisamment bon, absolument.
Bien sûr, tu vois, dans la première des questions là, que tu nous as évoquées, il est question de l'enfant parfait qui se tient bien, qui ne fait pas de bruit, qui ne gêne pas les autres. Globalement, c'est ça en gros qui est résumé.
Un robot,
voilà. Donc...
En fait, on ne veut pas d'un enfant comme ça.
C'est
personne
ça, le truc, c'est on se dit par exemple, un exemple très concret, j'ai envie de sortir au resto avec mon enfant va faire du bruit, va bouger, va marcher et va déranger les autres. Est-ce que la problématique, elle vient du fait que l'enfant marche, bouge et fait du bruit, en fait vive? Tout simplement ce que fait un enfant, ou est-ce qu'elle vient du fait qu'on n'a pas peur que le voisin soit dérangé par notre enfant, alors que finalement un enfant qui bouge, qui fait du bruit, bah, c'est bien. Moi, quand je vais au resto avec mes filles, j'ai envie qu'elles vivent, qu'elles bougent, qu'elles puissent marcher, évoluer, aller découvrir des choses. Voilà, donc,
et d'ailleurs,
donc
quand,
d'où elle vient cette pression?
Et d'ailleurs, quand vous venez faire un podcast ici avec nous, il y a votre fille qui est juste à côté.
Et on lui interdit de parler.
Ouais. Et je dois dire, elle fait aucun bruit. Si tu veux faire du bruit, tu peux. Hein. Puis papa a dit que tu pouvais, il faut vivre. Hein. Non, c'est bon,
elle est dans un bouquin. Elle a pas de barrière, elle est contente, elle est bien.
C'est vrai que c'est horrible quand on voit des parents qui hurlent sur leurs enfants au restaurant, il fallait pas venir avec eux, les amis. Enfin bon, c'est un autre sujet.
Alors, non, c'est aussi le sujet. Moi, j'ai deux réactions à ce que vous avez dit. La première, c'est que je trouve que d'un côté, on a envie que nos enfants soient parfaits. Et ça amène quoi comme conséquence sociale? Ça amène que de plus en plus d'enfants sont étiquetés avec des maladies. Hein. Ils sont... hyperactifs, ils sont dyscalculiques, ils sont hypersensibles, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde aussi l'envers de notre besoin de perfection, c'est toutes ces maladies qui se développent et on étiquette chaque enfant dans une espèce de pathologie. Ça, c'est dramatique. Ouais. Hein. Dans une classe aujourd'hui, il y a 3 dyslexiques, 4 dyscalculiques, 4 autistes, etc. Enfin, les autistes, c'est un peu différent.
Mais précoces. Quand même,
les précoces, les hypersensibles. Ouais. Et donc, le modèle de la perfection social, là, il amène ça aussi. C'est-à-dire que, évidemment, quand un enfant n'est pas adapté parfaitement, alors on lui découvre une pathologie.
Complètement.
Ça, c'est vraiment un effet très pervers de cette question et très grave, parce que l'enfant qu'on étiquette dyslexique, dys machin, etc., ou hyperactif quand il a 3 ans, ce qui est n'importe quoi, il va le garder toute sa vie, ça.
Ouais. Et c'est hyper intéressant, effectivement, je suis entièrement d'accord
avec
ça.
Ça, vous devez en voir.
Ah, moi, j'en vois tout le temps, et j'essaye aussi, effectivement, de déconstruire ces choses-là avec mes patients, parce que... Même le lexique, il est intéressant parce qu'on dit ces maladies qui se développent, mais en fait ces maladies, elles se développent pas. C'est des étiquettes effectivement, comme vous avez dit, qu'on y met dessus. Et quand on dit dys quelque chose ou quand on dit hyper quelque chose, c'est forcément en référentiel à une norme. Puisque si on est hyper, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est normal. Si on est dys, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est normal. Sauf que en fait, où se trouve la normalité? Un enfant qui bouge beaucoup, un enfant qui bouge pas beaucoup. Est-ce que l'enfant qui bouge pas beaucoup est normal et donc par réflexe l'enfant qui bouge un peu plus est anormal, donc hyperactif? Ou est-ce que l'enfant qui est hyperactif finalement est normoactif et l'enfant qui bouge pas est hypoactif. Ouais. En fait, c'est une histoire de référentiel. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre des référentiels? Parce que je pense qu'on est dans une société où on a absolument besoin de mettre les gens et les personnes dans des cases. Mmh. Donc en fait,
les familles et les parents subissent et les enfants subissent de plein fouet.
Bien sûr, parce que mettre dans la tête d'un parent que son enfant de 4 ou 5 ans est hyperactif, il y a tout le schéma familial qui va se construire autour de ce diagnostic, et j'ai mis des guillemets qu'on peut pas voir sur le podcast, de ce diagnostic d'hyperactivité, parce que bah du coup, mon enfant est hyperactif, bim, on a l'étiquette sur la tête, et puis on l'a quoi.
Et puis c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, notamment je pense au HPI, où je crois qu'une étude a été menée, il y aurait 2% à peu près d'enfants à haut potentiel, hein, Sophie Rouen, je crois que le chiffre est bon, et en fait, on estime que ce chiffre est constant depuis toujours, depuis qu'on peut mesurer le quotient intellectuel, donc en fait, c'est juste qu'on en parle plus, et du coup on met cette étiquette d'HPI à tout le monde.
Et puis surtout, pour échapper à cette question de la pathologie, on essaye d'y échapper par le haut. C'est-à-dire que si on se dit un enfant, il n'est pas tout à fait adapté, il n'est pas tout à fait comme on a envie qu'il soit, parfait, alors il vaut mieux qu'il soit HPI que 10, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc c'est aussi, moi je vois beaucoup, beaucoup de parents aujourd'hui qui arrivent en disant, mon enfant, il est HPI, il est HPE, etc. Et en fait, l'enfant, il est juste...
Casse-couille.
Il est malin. Non mais il est malin.
Il y a un sketch comme ça.
Malin, il n'est pas forcément HPI.
Oui, mais alors, pour être dans le cas... Je peux vous dire qu'on est obligé de se raccrocher à ça, parce qu'il se passe quoi sinon ? Il se passe que son enfant, il est harcelé. Il se passe que son enfant, au collège, les profs le détestent. Alors que si on arrive en disant, en fait, désolé, il faut mettre des choses en place, parce que sinon, les gens ne le font pas. Et je ne parle pas de tous les profs, et en étant moi-même, je sais que c'est compliqué. Mais c'est quand même triste qu'on en arrive à devoir étiqueter nos enfants pour qu'ils soient pris en compte.
Ouais.
Absolument. Dès qu'ils sortent du cadre, ils n'existent plus que sous la forme d'un problème. Et on est obligé. Voilà. Et je trouve ça tragique. Et en plus, on passe pour le coup à côté de vraies pathologies, j'imagine, parce que les parents qui arrivent avec un gamin qui est dyslexique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aider avec une AVS, une aide particulière. Mais ça se noie dans la masse des gamins qui sortent juste du cadre.
Mais il y a probablement une notion de... Alors, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais il y a sûrement une vérité derrière, de déculpabilisation aussi des parents, de se dire en fait, c'est pas moi qui suis dysfonctionnel.
Bien sûr.
Il y a une problématique, il y a une pathologie qu'il faut prendre en charge.
Et donc, revient à notre sujet des parents qui se mettent la pression, qui ont besoin d'être rassurés par un rendez-vous chez le psy ou chez le médecin qui va mettre un mot.
Alors, deuxième chose quand même. Il y a aussi, vous parliez du restaurant, etc. Il y a aussi une question de limite aujourd'hui. Il y a clairement une question de limite. Tout à l'heure, vous avez dit presque, si je laisse mes enfants sans leur faire à manger ou je ne sais pas quoi. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais moi, j'ai entendu quelque chose comme, ils vont penser que je ne les aime pas et oui, peut-être ils ne vont plus m'aimer. Hein. Et aujourd'hui, je crois que la pression des parents, elle est à cet endroit-là. On a le sentiment que nos enfants pourraient ne pas nous aimer si on est trop dur, si on est dysfonctionnel, si on n'est pas assez ceci ou pas assez cela.
Oui, puis au-delà de l'amour, on a peur de perdre le lien. Et on sait, et alors d'autant plus quand on travaille dans cette émission, que la perte du lien, elle est tragique. Plus on va avancer dans les années.
Bien sûr.
Oui, mais c'est pas parce que tu ne laisses pas à manger dans le frigo, Marie.
Mais c'est ça, mes
enfants. C'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que c'est, je crois, le fond de la question. Il y a quelque chose aujourd'hui, je crois que pendant des générations, on ne s'est pas posé la question du lien entre les parents et les enfants. C'était une évidence. Aujourd'hui, ce n'est pas une évidence. Si on ne fait pas bien, les enfants peuvent ne plus nous aimer et on peut perdre le lien avec eux. Et ça, moi, je n'y crois pas une seconde. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on rétablisse quelque chose de la confiance dans le lien entre les parents et les enfants. Et c'est en rétablissant cette confiance dans... Mais même si vous les engueulez, même si vous leur dites d'aller dans leur chambre, même si vous les punissez, ils vont vous aimer quand même. Et peut-être même, ils vont vous aimer plus, parce que ça va les sécuriser. Et qu'ils vont se dire, ils vont se sentir en sécurité, et il y a quelque chose qui va pouvoir s'exprimer dans l'amour. Donc, j'entends bien, emmener des enfants au restaurant, c'est super. Et il faut que les enfants puissent, évidemment, bouger, vivre, etc. Il faut aussi faire attention aux voisins. Donc, ça veut dire essayer de trouver des équilibres. Mais on peut dire aussi à ses enfants, non, tu vois, là, on est dans un espace public, tu fais moins de bruit. Ou tu cours pas dans tous les sens.
En fait, c'est le bon sens, quoi. C'est-à-dire, il faut laisser son enfant vivre, mais pour autant, pas pourrir le pas de tout le monde. Quoi.
Et l'enfant, il va vous aimer quand même, si vous lui dites ça. Hein, mais je pense que c'est un cœur de problème aujourd'hui. les parents pensent que les enfants pourraient ne plus les aimer.
L'enfant, il aime et il se construit.
Marie,
autour...
ça fait une petite séance gratuite. Oui, petite séance.
Non, mais je pense que ça vient aussi forcément, mais chez tous les parents, du lien qu'on a nous-mêmes avec nos propres parents et des liens qui se déconstruisent. On est aussi des générations de parents divorcés, de liens qui se construisent ou pas et qui se restent tendus ou pas au fil des ans. Et c'est pas forcément évident de pas vouloir reprojeter ça sur ses propres enfants.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Marius, pour ces messages. Ça a enflammé un peu la chose. On a beaucoup parlé de perfection, puis on a avancé un peu partout. On va parler maintenant. Bon, la pression, on est donc d'accord. Il y a trop de pression, trop de quête de la perfection. On va parler maintenant des conséquences de tout ça sur les parents, sur les enfants, sur tout le monde. Alors, quel est le risque de tout ça à force de vouloir tout bien faire tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on craque?
Bon, bah moi, je m'appelle Fabienne, donc j'ai 39 ans, et donc je m'occupe de nos 4 enfants.
Les enfants, chérie, à table.
Pauvre Fabienne Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça, la merveille de série de France Télé, qui est d'ailleurs en DVD, je recommande, ça fait thérapie, ça aussi. Je pense que ça devrait être remboursé par la Sécu. Elle illustre bien, je pense, Sophie Brown, ce risque de burn-out parental. Je sais pas si le mot est toujours adapté, on l'emploie peut-être un peu trop, mais de pétage de câble, quoi.
Ben, alors maintenant, c'est vrai qu'on emploie burn-out partout, tout le
Dès
temps.
Dès qu'on est fatigué, on est en burn-out. Ouais, ouais.
Hein, bon, on a tous droit d'être en burn-out et on est tous en burn-out. Ce que je trouve intéressant, c'est à la fois que les parents aujourd'hui se mettent beaucoup de pression. Alors, c'est hyper dur de généraliser. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, on a du mal à généraliser. Parce qu'il y a aussi beaucoup de parents très absents, par ailleurs. Hein. Donc, c'est un peu compliqué. Mais quand même, il y a un peu un double effet. Il y a d'un côté, on se met beaucoup de pression. Et de l'autre côté, peut-être, on n'est pas assez attentif aux enfants. Moi, je vois beaucoup de parents dans la rue, par exemple, avec des jeunes enfants. Ils sont sur leur téléphone portable. Et puis, l'enfant, il est en train de faire un truc. Et puis, en fait, le parent, il ne le voit pas du tout. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal dans le fait qu'on se mette une pression très forte pour qu'il soit parfait. Alors, dentiste, piano, machin, dans une certaine classe sociale en tout cas, hein, et ils font 12 000 activités. Mais est-ce qu'on garde le sens de la relation et, dirait encore Winnicott, du jeu? Le jeu, J-E-U, pas le jeu, J-E.
On en revient à la question des robots, c'est-à-dire il faut aussi se mettre à hauteur d'enfant, arrêter un peu tout ce qu'on fait.
Faut jouer. Moi, je crois qu'il faut jouer avec les enfants. Ils n'ont besoin que de ça, qu'on joue avec eux, qu'on s'amuse un peu et qu'on soit attentif à eux. Parce qu'en fait, un enfant, on voit bien s'il va bien ou s'il va pas bien. On voit bien s'il a des copains, s'il dort bien, s'il mange, voilà. C'est assez facile en fait. C'est juste un problème d'attention. Mais c'est vrai que si on est rivé à son téléphone portable, et c'est un problème qu'on a tous. Hein,
je crois qu'on le fait tous. Hein.
Là, bien sûr, on le fait tous.
Les gens qui nous écoutent culpabilisent, mais on n'est pas mieux que vous. Hein.
Non, mais culpabilisez pas. Moi, on le fait tous, c'est évident. Mais il faut vraiment, quand on a des enfants, s'obliger à poser son téléphone portable, le mettre en mode avion, ce qu'on vient de faire là, donc si on peut le faire ici, on peut le faire aussi avec nos enfants, et jouer avec eux. Jouer, c'est juste, c'est rien, quoi. C'est on bavarde, si on fait un petit jeu, si on les emmène au parc, enfin, c'est des trucs comme ça. Mais c'est essentiel, cette attention-là. Et je crois que le contraire de la pression, c'est pas le lâcher prise, c'est l'attention et le jeu. Tout à fait différent. Et la relation.
Mais Dr. tu vois, on parlait de, on a introduit justement avec la question du surmenage et du burn-out, et c'est hyper intéressant justement que vous rebondissiez sur la notion du plaisir, parce que c'est une des premières choses qui disparaît quand on est en surmenage et quand on est en burn-out, que ce soit professionnel, familial ou autre, c'est la notion de prendre du plaisir à faire les choses. C'est quand on se met à du coup à ne plus prendre de plaisir à une chose qu'on était censé faire avec plaisir à la base, comme par exemple jouer tout bêtement avec son enfant. Mmh. Et ça, ce sont des... Alors, il y a d'autres critères qui définissent le burn-out au sens vraiment médical du terme, et pas au sens courant, mais au sens vraiment, voilà. Mais l'anhédonie, donc la perte du plaisir, c'est un des symptômes, justement, de cette pathologie qui émerge. Et qui...
C'est quoi les autres symptômes, alors, du burn-out, au sens où on l'entend? Donc, pas l'aspect le plus médical possible, mais le burn-out parental, toi, tu vois quoi?
En fait, on voit la perte du plaisir, on voit le fait de faire des choses de manière automatique, et après, on voit tout le chemin qui nous mène vers ce qu'on appelle, nous, le syndrome dépressif. Mmh. Donc voilà, c'est la perte d'envie, j'en ai parlé, c'est le fait d'avoir de plus réussir à sortir de son lit, il y a tout un ensemble de choses, et bien entendu l'humeur triste étant au premier lieu, mais souvent c'est très sournois parce que ça touche, là on touche à la sphère familiale et on touche à toute cette notion de il faut pas que je le montre. Parce que j'ai pas le droit d'avoir des failles, parce que j'ai pas le droit d'être en burn-out parental, parce que j'ai rêvé de cette vie, j'ai rêvé d'être parent, j'ai rêvé d'avoir mes enfants. J'ai tout ce que je voulais, je n'ai pas le droit. Et ça, c'est très, très, très difficile. Et en fait, la première des choses que moi, je dois faire en consultation quand on a ce genre de choses-là, avant de penser à prendre en charge et de donner des pistes aux parents pour sortir de cette situation-là, c'est d'abord les dépister, c'est d'abord leur faire prendre conscience qu'ils sont sur cette route-là. Parce que nous, en étant objectifs et en recueillant les témoignages pendant les consultations, on le voit très vite. Les parents qui sont sur cette pente-là, de commencer à perdre du plaisir, de commencer à faire les choses de manière automatique, de commencer à faire... Et en fait, de faire comprendre aux gens que là, ils se mettent trop de pression, que là, ils prennent trop de... ils prennent une mauvaise pente, entre guillemets, et qu'il faut qu'ils retrouvent du plaisir à faire les choses, qu'il faut qu'ils retrouvent... C'est très tôt qu'il faut intervenir, et à un moment où les gens ne sont pas forcément prêts à l'entendre. Parce que non, non, ça va, je tiens bon,
je gère,
tout va bien, je gère. Non, non, je suis la mère que je rêvais d'être, je suis le père que je rêvais d'être, tout va bien, je gère, quoi.
Marie, père Arnaud, toi tu gères, évidemment.
Alors,
avec 4 enfants, un boulot, loin de la maison...
Bientôt un chien.
Ouais, alors ça, c'était pas obligatoire. Non, comment on fait pour, toi, le pétage de câble? Tu dirais que t'as flirté avec, comme tout le monde,
ouais,
un petit peu.
Ouais, je pense que je flirte avec.
Encore maintenant.
Ouais, et je trouve ça plutôt sain et de pouvoir le dire aussi. Parce
si un jour on te croise en pyjama dans la rue, il faudra pas s'étonner, quoi.
Non, c'est vrai. la seule solution que j'ai trouvée, c'est le sport. Mais c'est pas tant le sport, c'est le sport pour moi. Et c'est ce qui m'a, moi, me permet de pas devenir dingue, c'est d'être toute seule. Alors, j'ai la chance de faire un métier où, justement, pendant 2 jours, je vois pas mes enfants et que je gère rien et que je m'ôte tout, justement. Et de plus en plus, la culpabilité, en plus de ne pas faire ces choses-là. Mais c'est le temps pour soi, même très peu. Avant même le temps pour le couple dont on va parler probablement, je trouve que être juste soi, même 10 minutes, ça ôte énormément de choses. Et je me souviens, enfin moi je dormais très très peu. J'ai eu ma dernière a eu des problèmes de santé. J'étais vraiment épuisée. Et des fois le temps pour soi c'était juste d'aller aux toilettes. Et je me souviens de m'être dit là tu te rends compte où t'en es dans ta vie. En fait aller aux toilettes est un bon moment. Faire les courses, c'est un bon moment.
Ah, les courses, voilà.
Et on se dit,
bien
mais
sûr.
Où on en est,
c'est un
quoi.
Classique.
Mais c'est capital. Mais ouais. Moi, mes patients et mes patientes qui sont sur cette pente-là, quand je leur demande, alors dans une semaine, avec le nombre d'heures qu'il y a dans la semaine, d'habitude, je fais le calcul, là, je suis nul en calcul mental, je ne vais pas réussir à le sortir.
24x7.
Voilà, 24x7. Combien vous en prenez pour vous? Et en fait, il n'y a pas de réponse, il y a un silence, quoi. C'est-à-dire que, mais je dis, mais vous rendez compte, une demi-heure ou une heure sur les 100 et quelques heures qu'il y a dans la semaine, c'est pas possible, quoi.
Oui, je reviens. Alors, je voulais dire 2 choses. Je reviens à la question du jeu. Si on jouait plus avec nos enfants, ça serait aussi un peu moins des charges et du coup, on aurait peut-être un peu moins besoin de temps que pour soi. C'est vrai qu'on on pense le temps avec les enfants, on le vit comme une charge parce qu'on prend plus ce temps même de se mettre sous une couette le dimanche matin à regarder un mauvais film en buvant du chocolat chaud. Enfin, je veux dire, on prend plus ce temps-là. Donc, c'est que des charges parce que c'est bien d'être seul, mais c'est aussi vachement bien d'être avec ses 4 enfants sous son lit.
Quand ils sont grands. Ouais. Mais c'est vrai que les premières années, quand c'est que quasiment de la logistique.
Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Et c'est jamais que de la logistique en même temps.
Non, mais vous voyez, jouer avec des cubes ou faire une partie de Catan.
Oui, bien sûr, c'est pas tout à fait pareil, évidemment.
Mais c'est vrai que moi, j'encourage quand même beaucoup, du coup, à prendre ce temps-là seul dont tu parlais, Marie, tout à l'heure, pour justement optimiser le temps, passer derrière ensuite à jouer.
C'est le retour des travaux, les amis. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter ce qui se passe. On enregistre à 2P2L, donc dans le 15e arrondissement. Je sais pas, il y a des travaux à côté. Marius, je suis sûr que tu sais.
Non,
tu sais pas.
Il y a des lui qui organise.
Ils sont relous, donc je sais pas ce qu'ils font. Bon, bref, si le bruit est un peu pollué, ça vient des travaux.
Et je reviens à une autre question que je trouve extrêmement intéressante, c'est la question du chien. Parce que, qu'est-ce qu'il y a derrière la question du chien? Pour la plupart des gens, aujourd'hui, on se déconnecte de notre corps. De corps dans ce qui peut avoir de pulsionnel et de plaisir, justement. Hein. Alors, on fait de la gym, mais c'est pas forcément du plaisir. Le corps n'est là que pour nous rappeler, la plupart du temps, on se déconnecte du corps. Et moi, je vois beaucoup de patients, notamment à Paris, qui tout d'un coup prennent un chien, et le chien les oblige à retrouver quelque chose du corps. Plus que les enfants, c'est assez curieux. Hein. Il y a quelque chose d'instinct, de pulsionnel dans le chien qui vient créer quelque chose. D'abord, on est obligé de le sortir, on est obligé, et puis il vient, il vous saute dessus, il bavouille, il vous l'échoue partout. Il y a quelque chose là du jeu et du plaisir. Eh ben, c'est exactement ça qu'on peut essayer de retrouver avec les enfants. On peut se l'échouiller, bavouiller. Alors, en période de Covid, c'est moyen, mais quand même.
Les sortir.
Voilà, avec une laisse.
Il y en a.
Mais le chien, c'est pas rien. Hein. Je pense que c'est le symptôme aussi d'une société qui est trop déconnectée de son corps et de ses instincts. Vous disiez tout à l'heure le mot optimiser. Il faut déconstruire le mot optimiser. Hein, vraiment. Et retrouver le fait de faire des choses, pas pour les optimiser, mais par plaisir. Vous l'avez dit, mais on est tous pris là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée par plaisir et pas par obligation, ou pas pour être efficace, ou pas pour être optimum ? Si on moralité, se pose la question, c'est pas évident.
Prenez un chien, les amis.
Oui, je n'avais pas tort.
Mes enfants me tannent.
Voilà.
Je
vous enverrai des photos de mon petit chiot, vous allez voir.
Oui, mais je sais que je pourrais craquer. On va écouter un nouveau témoignage. Cette fois, c'est Anthony. Parce qu'il n'y a pas que les femmes, bien sûr, qui se sentent concernées par ce sujet. Papa d'un garçon et bientôt de deux. On écoute Anthony.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Anthony, j'ai 39 ans et je suis papa d'un petit garçon de 4 ans et demi avec un second bébé attendu pour le mois de septembre. À la naissance de mon fils, j'ai eu à cœur de m'investir à fond dans la parentalité et je me suis donc plongé dans les podcasts, les livres, les comptes Instagram de parents et les émissions de télé afin d'en apprendre le plus possible. C'était très agréable au départ car je me sentais guidé, légitime et compétent. Mais rapidement, la surinformation, les injonctions contradictoires prodiguées par les professionnels ou les spécialistes autoproclamés en petite enfance ont commencé à devenir stressants. Au lieu de me rassurer, le trop-plein de conseils est devenu source de doutes et d'inquiétudes. J'avais tendance à me comparer aux parents parfaits qu'on voit sur les réseaux sociaux et je n'étais jamais content de moi. Pour ne rien arranger, lorsqu'il a eu 7 semaines, mon fils a contracté une méningite bactérienne pour laquelle il a dû être hospitalisé pendant un mois, et nous nous sommes retrouvés, ma femme et moi, hyper entourés par l'équipe médicale, ce qui a été une bonne chose, car mon fils a été pris en charge de manière très efficace, mais qui a engendré une avalanche quotidienne de consignes et de recommandations qui a encore accentué la pression. Finalement, en rentrant à la maison au terme de cet épisode douloureux, j'ai pris du recul en me recentrant davantage sur mon ressenti et sur celui de ma femme, bien sûr, et en relâchant la pression sur la quête de la parentalité parfaite. Maintenant que le second bébé arrive, je recommence à m'informer pour actualiser mes connaissances, mais je fais ça avec pragmatisme et mesure afin de ne pas me remettre la même pression. Et surtout, lorsque je discute avec de jeunes parents, je veille à ne pas leur donner de conseils non sollicités.
Merci beaucoup à Anthony, beaucoup de choses dans son témoignage. On va déjà laisser de côté pour le moment le terrible épisode de l'hospitalisation, parce que avant ça, sur la surinformation, j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous. Est-ce que c'est vrai qu'on est surinformé sur ces questions, docteur? Est-ce que vous diriez que les parents, notamment entre les réseaux sociaux, les télés, les radios, les machins, les trucs, il y en a trop des infos pour les jeunes parents?
Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a pléthore et la surinformation, on y a accès en tout cas. On va la chercher aussi, hein. Mais parce qu'elle est disponible et parce que les premiers réflexes maintenant, on a tous un smartphone, on a tous Internet et on va chercher, on va lire, on achète plein de livres. Et les parents vont se reconnaître, mais quand on a eu le projet, la grossesse du premier, on s'est tous retrouvés, à lire des tonnes de choses, à savoir, les fameux guides, les fameux machins où on va avoir toutes les infos dont on va avoir besoin dedans. Et puis effectivement, moi je m'y suis retrouvé complètement dans la première partie, dans ce qu'il a dit là. Sur information, au début, c'est pour savoir, pour se renseigner.
Au début, ça fait du bien, on est
ça
content.
Ça fait du bien, on se dit, c'est une façon de se projeter aussi, de se dire, allez, je me renseigne, je lis, je vais investir un nouveau domaine. Sauf que c'est un domaine qui est tellement vaste, et puis c'est quasiment que de l'expérience qu'on lit, en fait. C'est l'expérience de chacun, et on oublie parfois de se dire simplement qu'on va se faire sa propre expérience, et puis que ça va aller aussi. Hein.
Alors d'ailleurs, dans la maison des maternelles, est-ce qu'on contribue pas un peu à ça? Parce que dans notre émission aussi, du coup, je suis allé poser la question tout à l'heure à Jérôme Cazac, qui est notre producteur, pour lui dire si on avait une responsabilité dans cette petite pression que peuvent avoir les parents.
Notre rôle, c'est de présenter aux téléspectateurs, aux auditeurs, les positions d'un peu tout le monde, et quand elles sont divergentes, de permettre aux parents de faire leur choix et de le faire en toute objectivité. Après, notre rôle, c'est vraiment d'informer la manière la plus juste possible, entre guillemets, parce que juste, c'est toujours subjectif malgré tout. Mais nous, on veut que les parents puissent avoir les deux sons de cloche ou les trois sons de cloche quand il y en a, et c'est notre responsabilité.
Marie, c'est vrai que nous aussi, en étant dans cette émission, nous, tous les jours, alors Jérôme a raison, on donne la parole à des gens sérieux la plupart du temps. Je retourne vers Sophie Brown qui vient souvent. Mais nous-mêmes, on est aux premières loges de ça. Ouais. Le bon exemple, c'est l'éducation bienveillante, je trouve, ouais. Où tu vas avoir un gars qui va venir t'expliquer que c'est la meilleure des choses et un autre le lendemain qui dira que c'est une catastrophe. Comment on fait?
Oui, mais on reprend l'expression « faire son marché », mais pour faire son marché, encore faut-il savoir de quoi on a besoin. Je trouve ça super d'être informé, mais je vais vraiment rebondir sur ce que tu dis. La parentalité, c'est un apprentissage, et l'apprentissage, comme tous les apprentissages, c'est des essais et des erreurs, c'est des expériences. Et on aura beau lire tous les guides qu'on veut, tant qu'on n'est pas passé par là, on ne sait pas.
Est-ce qu'on fait moins d'erreurs avec le quatrième qu'avec le premier.
Non, non. Absolument pas.
On fait
pas.
D'autres erreurs.
Non, et en plus, on est encore plus, c'est encore plus les boules parce qu'on pensait qu'on allait y arriver mieux. Ouais. Donc, je pense que c'est encore plus déceptif. Mais
il y a moins de pression avec le quatrième ?
Non.
Non.
Moi, j'ai. Alors, si, sur plein de choses, mais tout. Alors, justement, tout ce qui est logistique, on a énormément de moins de pression. Mais après. L'enfant, ses émotions, la façon dont nous-mêmes on s'est construit, la façon dont on a évolué, elle est tellement voilà, singulière que non, vraiment, moi je trouve qu'on se met la même pression. Enfin, en tout cas, elle est différente. Mais vraiment, l'expérience, et c'est pour ça que moi je trouve ce que je trouve hyper intéressant dans les maternelles, c'est ce partage d'expérience.
Parce c'est les témoignages, ouais.
Voilà, on a besoin de se raccrocher à des choses, on a besoin de se dire, ah, ils sont passés par là. Ça nous donne des clés, ça nous donne des outils, peut-être des façons de réagir, des façons d'envisager les choses qu'on n'avait pas forcément eues en tête. Mais en revanche, il faut les vivre parce que c'est comme quand quelqu'un vit un truc tragique qu'on n'a pas vécu, on peut être dans l'empathie, ouais. Tout ce qu'on veut, on ne sait pas ce que ça fait. Voilà.
Sophie Brown, Anthony, il dit à la fin de son témoignage, « Quand je discute avec de jeunes parents aujourd'hui, je veille à ne pas leur donner de conseils non sollicités. » C'est super ce que dit Anthony.
C'est
parce
super,
que
c'est... absolument.
Il faut c'est aussi les conseils qu'on n'a pas demandé et qu'on mange tout le temps.
Tout à fait. Il faut essayer de répondre juste effectivement aux questions que les gens peuvent se poser à un moment donné. Et c'est vrai ce que vous disiez, tout ça c'est des processus. Donc on se pose une question à un moment, puis on s'en pose une autre après. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est magique, c'est que chaque bébé, chaque enfant est différent. Les parents sont différents aussi parce qu'ils en ont déjà un ou pas, ils n'ont pas le même âge. Et donc il faut qu'on revienne aussi à l'idée que c'est une rencontre individuelle, que ce sont deux personnes ou trois personnes ou quatre personnes qui se rencontrent à un moment donné, dans une dimension qu'aucun forum sur Internet ne pourra nous donner. Aucun, jamais. En plus, les forums sur Internet, moi j'ai des patientes qui ont regardé des milliers de forums sur Internet et je leur dis, mais vous savez même pas qui répond. Pourquoi vous faites confiance à quelqu'un qui est peut-être au fin fond de je ne sais quel pays en train de dire n'importe quoi et que vous ne vous faites pas confiance à vous? Et puis surtout, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas avec votre bébé ou vous n'êtes pas avec votre enfant en train de le regarder, de lui donner de l'attention et encore une fois, de jouer avec lui. Donc,
Oui, c'est comme pour les questions de santé. Ne pas aller essayer de s'auto-diagnostiquer quand on n'est pas médecin en tapant sur Google « j'ai mal à mon doigt, sinon et on va être amputé le lendemain ».
C'est ça.
On est d'accord. Il faut qu'on dise un mot aussi de la pression avant même d'être parent, c'est-à-dire pendant la grossesse et pendant l'accouchement. J'ai voulu demander son avis là-dessus à Anna Roy. Bien sûr, notre sage-femme, qu'en pense-t-elle? Les femmes qui viennent accoucher se mettent-elles trop la pression dès la maternité? Vas-y, Anna.
Les femmes se mettraient trop la pression, voilà quelque chose que j'entends souvent. Ah, les femmes se mettent trop la pression. Moi, je pense que c'est pas le cas du tout. Je pense plutôt qu'on la leur met, la pression. Elles sont pas responsables de la pression qu'elles ressentent. Alors, il faudrait analyser d'où vient la pression et comment cette pression naît chez elles. Mais il y a deux facteurs qui concourent au fait qu'elles aient énormément de pression. Donc d'abord la pression qu'on leur met. Parce qu'on leur dit, pour être une bonne mère, il y a plein de présupposés. Il faudra, par exemple, avoir accouché dans une baignoire sans péridurale, allaiter 3 ans ton enfant, porter des fringues cool, etc., etc. Alors même que pourtant tu vas rebosser au bout de 2 mois et demi. Donc en fait, elles sont prises dans des injonctions contradictoires qui font que en fait, on ne peut pas faire autrement que d'avoir la pression parce qu'on vous dit c'est super d'accoucher sans péridurale mais en même temps, personne ne la propose. Donc ça fout la pression par exemple. Et il y a autre chose qui concourt au fait que les femmes aient la pression, c'est qu'elles n'ont pas le temps de penser et d'élaborer ce qu'elles veulent pour elles. Et en fait, quand on n'a pas le temps d'imaginer et de réfléchir, eh ben ça fout la pression. Je prends par exemple l'exemple de l'accouchement. Elles travaillent par exemple toute la grossesse, les femmes souvent. Et en fait, donc elles ont l'accouchement en backup derrière leur tête, elles ont envie d'y penser, mais en fait elles n'ont pas vraiment le temps d'y penser. Et donc ça donne aussi vachement la pression de ne pas pouvoir penser des choses auxquelles on doit penser. Donc moi j'aime pas dire que les femmes ont la pression, j'aime beaucoup plus leur dire qu'on leur met la pression, et qu'il y a beaucoup de choses qui concourent à ça. Et comment s'en protéger? Eh bien ça, je crois que tu vas y répondre, Benjamin, dans la suite de l'épisode.
Sophie Brown, ça commence dès le projet de naissance, dès les premiers mois de la grossesse, et alors l'accouchement, déjà on est au taquet niveau pression?
Oui, aujourd'hui, vraiment, je crois qu'il y a un niveau de pression terriblement fort sur les femmes enceintes, etc. Il ne faut même pas boire une goutte d'alcool, il ne faut plus fumer une cigarette, etc. Enfin, alors évidemment, c'est bien, hein, c'est
Docteur
mieux.
Flo qui fait bas.
Bien sûr qu'il ne faut pas le faire.
Non, on va dire le café. Allez, disons le café. Allez. Certaines s'empêchent une goutte de café,
voilà. C'est pas une maladie d'être enceinte, donc il faut aussi le vivre normalement et naturellement. Il y a un point, moi, qui me semble important, si on descend un petit peu, c'est que dans les générations d'avant, on mettait beaucoup d'énergie à des tâches matérielles. Ma grand-mère, elle avait son linge à la main, elle faisait la vaisselle, machin, etc. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Cette énergie-là, elle devient plus psychique. on a plus d'énergie qui nous arrive pour nous demander qui on est, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien. Ça, c'est, et je pense qu'on n'en tient pas compte de ça. Et on continue d'éduquer les gens et les enfants comme si on était encore dans les générations d'avant où l'énergie se partageait entre les tâches matérielles et le psychique. Alors moi, je trouve ça drôlement bien, évidemment, parce que ça nous éveille et on a une conscience plus large puisqu'on a plus d'énergie dedans. C'est ce qu'on appelle l'individualisation. C'est un vrai progrès. Mais ça a un revers.
Le repli sur soi.
Eh bien, si on ne nous éduque pas à cette individualisation, alors effectivement, le risque, c'est qu'on se replie sur soi ou qu'on se pose des milliards de questions. Moi, je vois des jeunes et des moins jeunes arriver et me dire « Alors, je ressens ça, mais est-ce que j'ai raison de ressentir ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas un truc que je devrais pas ressentir ?»
On se pose trop de questions et on anticipe trop ce qui pourrait nous arriver aussi.
Mais oui, et on vit plus. Donc je pense qu'il y a une pédagogie à avoir aujourd'hui de cette nouvelle énergie psychique qui nous anime. Comment est-ce qu'on peut continuer, bien sûr, à se développer individuellement tout en restant en lien avec les autres? C'est, alors j'ai un peu dérivé de la question de la grossesse et de l'accouchement, mais je pense que tous ces phénomènes-là sont reliés
tout ça
par
ça. Rejoint, hein.
Voilà, ça se rejoint. Mmh. On passe trop de temps à se demander si à un moment donné, ce qu'on fait, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Il faut qu'on retrouve quelque chose du chien, de l'instinct.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça va pas de pair avec la sédentarité? Est-ce que ça va pas de pair avec le fait qu'on soit moins dans l'action et qu'on ait plus de temps de cerveau disponible, certes, mais le temps de cerveau disponible qu'on a en étant en action n'est absolument pas le même que celui qu'on a en étant statique. Et les femmes enceintes qui sont justement parfois qui ont peur de pas faire, qui arrêtent tout sport, qui arrêtent toute chose et qui.
Puis les trois derniers mois, t'es à la maison un peu seule, t'as le temps de cogiter, quoi.
On a effectivement, je suis assez d'accord sur l'énergie qu'on a plus de mise en œuvre de quelque chose, quoi.
Et tant mieux. Hein, oui, tant mieux, mais qu'est-ce qu'on en fait?
Qu'est-ce qu'on en
et
fait,
on n'a pas de pédagogie de qu'est-ce qu'on en fait.
Ça, c'est très vrai. Et moi, je trouve qu'à tout ça se rajoute un truc qui, je trouve, est catastrophique dans nos sociétés de maintenant pour les parents et puis pour tout le monde en général. À partir du moment où il y a grossesse, voire même parfois projet bébé, c'est ça rejoint ce que disait notre auditeur tout à l'heure, c'est il parle de conseils non sollicités, c'est tous les conseils qu'on n'a pas sollicités. Et alors les injonctions de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a son avis sur comment est-ce qu'on devrait faire mieux que ce qu'on fait actuellement.
Avec les enfants,
c'est-à-dire que moi, j'ai les deux trucs dès la grossesse, c'est-à-dire que je vais avoir une femme enceinte qui fait du sport, on va lui dire tu fais trop de sport. Je vais avoir une femme enceinte qui fait pas de sport, on va lui dire fais du sport. Je vais avoir une femme enceinte qui mange trop de légumes, on va lui dire tu manges trop de légumes.
Le test est positif,
c'est
impressionnant. Dans le domaine public, quoi.
Je comprends pas. Ouais, je vais le dire, je comprends pas pourquoi est-ce que la grossesse, la parentalité est tant que sa source de tout le monde, que ça soit des proches comme des non-proches, mais même dans le cercle très privé, de gens
qui se croient... C'est la seule chose qui nous rallie tous. C'est les gens se raccrochent à ce qui est universel chez nous, c'est le fait d'avoir des enfants. Alors, pas tout le monde, mais en tout cas, on a tous quelque chose à dire.
C'est quelque chose qu'on a tous vécu. Mais donc, c'est probablement pour ça qu'on veut guider les jeunes parents ou les jeunes parents en devenir.
Et il y a aussi peut-être parce que ce sont les femmes qui portent les enfants. Si c'était les hommes qui portaient les enfants, je ne suis pas sûr que tout le monde oserait, comme c'est le cas aujourd'hui, la société.
En tout cas, ça vous ferait du bien de vous critiquer un petit peu et de donner des conseils sur votre alimentation.
on pourrait, hein. Mais là, il y aurait à dire.
C'est vrai aussi. Pour l'ensemble de la société. Alors, c'est particulièrement vrai sur la grossesse, et moi, je trouve que ça pourrait être le thème d'un autre podcast, hein, parce que c'est passionnant. Mais c'est vrai aussi pour l'ensemble de la société. C'est aussi le développement des réseaux sociaux. Je veux dire, tout le monde a un avis sur tout. Enfin, aujourd'hui, qui ne sait pas si c'est l'Ukraine, la Russie ou les États-Unis les responsables? Et on n'a plus d'avis nuancés. On a des avis qui deviennent de plus en plus noirs ou blancs. Hein. La complexité de la pensée et la nuance est en train de se perdre, certainement à cause de ces moyens d'expression qui... radicalise un peu les choses.
Bah, c'est très manichéen parce qu'en 140 caractères sur Twitter, par exemple, on n'a pas le temps de développer une grande théorie. Quoi. C'est oui ou non.
Oui.
Et malheureusement, même la grossesse, etc., est touchée par ça. J'aimerais qu'on écoute, qu'on parle aussi des plus grands, savoir si ça pèse quand les enfants deviennent des ados. Je crois que je connais la réponse. Mais on va écouter le témoignage de Marie, une autre Marie, qui nous raconte comment ça se passe pour elle.
Salut, moi c'est Marie. Et évidemment qu'on se met la pression pour que nos enfants aient... le meilleur finalement, parce que au début on pense pas vraiment, je trouve, à la maternelle, à l'école, et tout d'un coup les autres parents parlent de faut les mettre dans la meilleure école, etc. Donc nous, par exemple, on n'avait jamais pensé aller changer d'école. Et puis finalement, la pression des autres a fait que, on s'est dit, il va falloir qu'on les mette dans la meilleure école, etc., etc. Et on est rentré un petit peu dans ce système-là. On est rentré aussi dans le système de, il faut absolument qu'ils fassent du sport. Il faut qu'ils s'ouvrent à l'extérieur. Donc, ils font beaucoup d'activités, mais quand ils font beaucoup d'activités, il faut les amener. Donc, c'est encore une organisation supplémentaire pour nous, pour leur permettre de bien vivre leurs activités, parce que il y a de l'entraînement. Après le week-end, il faut souvent traverser l'Île-de-France pour les amener au match. Et je pense que pour nous, c'est une forme de pression qu'on se met, parce que on veut absolument qu'ils aient le meilleur tout le temps. Parce que nous, on a peut-être eu le meilleur et qu'on a envie à notre tour de faire aussi bien que ce qu'on a connu. Alors, est-ce qu'on en fait trop? Peut-être, parce qu'on s'impose beaucoup de choses. Mais au final, le plus important, c'est qu'ils soient heureux.
Merci beaucoup à Marie pour son témoignage, où on se rend compte que oui, même quand ils vont devenir ados, ça ne va pas s'apaiser.
Non, mais c'est vachement intéressant, les ados, c'est plein de vie.
Bien sûr.
Et puis
on peut passer des bons moments. Vous disiez jouer à Catan, Colombe Catan avec
voilà.
Eux. Voilà. Il faut qu'on dise quand même un mot du couple, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du couple quand même. Et oui, le couple, avec cette pression, si l'autre ne se met pas la même pression, est-ce que ça ne pourrait pas être un gros problème ? Docteur Flo, est-ce que vous voyez des décalages dans la pression entre le père et la mère ?
Des décalages dans la pression, très certainement, dans les injonctions aussi. Après, c'est des décalages dans la pression ressentie, c'est-à-dire que, bien entendu, qu'on n'est pas obligé d'être à 100% toujours au diapason quand on est en couple. Est-ce que pour autant c'est un problème ? Alors ça peut le devenir, comme autant ça peut aussi participer à un équilibre. C'est-à-dire
ouais. Que si
quand on est seul,
surstressé...
on est soumis à sa pression, à la pression qu'on se met, à la pression qu'on ressent, et peut-être que l'autre peut être un pendard pour dire, bon allez, là on souffle, on relativise, etc., etc. On fait des enfants à deux, hein. Même si vous êtes les seules mesdames à les porter, on fait quand même des enfants à deux, et c'est peut-être pas pour rien, et peut-être qu'effectivement dans le but de se remettre dans la relation au corps dont on parlait, la relation, etc., fondamentalement c'est peut-être bien d'être deux aussi par moment pour pouvoir justement rééquilibrer les choses quand il y en a besoin. Tout dépend de chacun, mais c'est ça qui fait la richesse aussi des relations humaines.
Hein. Sophie Brown ?
Absolument d'accord, je pense que c'est ça l'intérêt d'être deux. Alors c'est pas forcément la répartition, elle n'est pas toujours père-mère de façon traditionnelle. Hein. C'est parfois la mère qui met plus de limites, parfois le père, parfois l'un des deux qui met plus de pression, et ça on s'en moque, enfin je veux dire, c'est pas important. Ce qui est important pour un enfant, c'est effectivement qu'il ait deux visions différentes du monde. Ça l'élargit, ça l'enrichit énormément. Donc surtout, n'essayons pas de faire des couples dans lesquels on serait d'accord tout le temps. Alors après, il faut que le couple puisse tenir et qu'effectivement, il garde assez d'espace aussi pour pouvoir parler, se rencontrer, faire des choses et supporter les dissensions. Mais ça aussi, ça fait partie des grandes évolutions de la société. On a envie d'être toujours d'accord, on voudrait enlever les conflits. Le conflit, c'est la vie. Le conflit avec soi-même, le conflit avec l'autre parent, le conflit avec les enfants. Il faut qu'on supporte les conflits. Et quand on parle d'éducation positive ou bienveillante, oui, bien sûr, mais pas en supprimant les conflits. Un conflit, c'est vraiment les conflits, c'est ce qui nous rend vivants. Et ça, c'est très important. Donc aussi le conflit avec le conjoint. Mais là encore, ça pose la question de l'amour. On va s'aimer quand même si on est en conflit. On va aimer les enfants, ils vont nous aimer, on va aimer son compagnon, sa compagne, etc. Supportons les conflits et acceptons que ce soit la vie même qui soit dans les conflits.
Et on a pas mal parlé de couple au sens traditionnel, entre guillemets, encore une fois, je mets mes guillemets du terme, mais en fait, ça s'applique à toute structure familiale.
Bien sûr, j'étais en train de penser à ça en disant que ça revient exactement au même. Je veux dire, il n'y a aucune différence.
Ah oui, non, bien sûr. De toute façon, c'est une structure. L'enfant, il va se construire dans une structure familiale qui va être la sienne. Il va pas regarder que sa structure, elle est différente de la structure de son voisin. Il s'en fiche, l'enfant.
Effectivement, il n'y a plus le modèle du père qui est forcément le symbole de l'autorité.
Bien
la
sûr.
Mère, la douceur, ça
bien
n'existe
sûr que non.
Plus. Donc,
et heureusement. L'enfant, lui, tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des gens autour de lui qui sont aussi épanouis que ce que lui, on veut qu'il le soit, tout simplement. Donc, que ça soit un couple traditionnel, entre guillemets, encore une fois, que ça soit un couple avec deux papas, un couple avec deux mamans, ou même une maman seule qui se fait aider par sa sœur ou sa mère. L'enfant, il va se construire dans ce schéma et dans cet environnement qui sera le sien et qui sera sa normalité à lui. Et en fait, on s'en fiche de savoir si sa normalité à lui, c'est la même que la normalité de son voisin. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant, il soit épanoui et que les gens qui s'occupent de lui soient aussi épanouis que lui.
Et qu'il ait de la douceur et de l'autorité.
Mm-mm.
Peu importe d'où il la reçoit, il faut qu'il ait les deux.
Douceur et autorité. Voilà une belle conclusion sur cet épisode du podcast. On va refaire un épisode du podcast sur devrait-on se mettre plus la pression dans les couples, ou je sais pas, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Alors merci beaucoup à tous les trois, Sophie Brown, Dr Flo, Ta fille qu'on n'a pas entendue. Elle est quand même très sage. Elle aurait pu, hein, pourtant, mais non, elle a peur, elle a pas envie de faire de bordel.
Tous les enfants sont très sages.
Tous les enfants sont très sages.
Ma fille, elle est épanouie, elle est bien. Peut-être qu'elle a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour l'être, mais elle est bien comme ça. C'est pas qu'elle est plus sage ou moins sage, c'est juste que voilà, elle a pas de contraintes, elle est bien comme elle est.
Bon, en revanche, elle est en train de s'allumer une cigarette avec un tas de contraintes.
Mais ça reste quand même la plus belle du monde.
Je plaisante, elle prend des bouquins, elle est trop mignonne. Merci beaucoup, Marie Perarnaud, d'autant plus que t'as un train dans 50 minutes, qu'on est dans le 15e.
On est
là. Tu vas à quelle gare?
Gare de Lyon.
Gare de Lyon, ça devrait aller.
Il y a un magasin La Durée, tout ira bien.
Merci beaucoup à Marius Doy d'avoir fait le relais des téléspectateurs. Un peu de lecture. Sophie Brown, La tentation du repli, c'est chez Mot Conduit, de mémoire.
C'est ça.
Bravo. Qui aborde vraiment les thèmes dont on a parlé aujourd'hui. Donc je recommande chaudement Docteur Flo, Docteur 2.0, récit d'un jeune médecin généraliste du 21e siècle. C'est chez Le Duc, je l'avais adoré ce livre. Donc je recommande aussi. Et Marie Perarnaud qui est en ce moment en train d'écrire un livre.
Deux.
Et alors ça, c'est...
Heureusement que j'ai 6 heures de train.
Faut peut-être relâcher un petit peu. Notamment un avec, si je dis pas de bêtises, justement les petites phrases pour se détendre.
Exactement.
En tant que parent. Donc on en reparlera. Merci à tous les trois. Merci à Alexandre Ferreira à la réalisation. Merci à Mathieu à la prise de son, malgré les gens qui faisaient des travaux à côté. On va aller leur régler leur compte. Jérôme Cazal, les équipes de 2P2L, toutes les équipes de France Télé. Ciao tout le monde.